Bien, bonjour à tous. Nous sommes encore heureux ce matin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et je vous propose une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Et nous lirons les 7 premiers versets. Apocalypse chapitre 2. À l'ange de l'Église d'Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change. Il revient à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui a des oreilles écoute, je vous regarde tous, vous en avez deux, c'est très bien. Donc, je voudrais que ce matin nous puissions écouter ce que Dieu doit nous dire, ce qui m'a été interpellé par ce texte, et je voudrais partager quelques réflexion, pour se dire que c'est un texte qui est quand même solennel pour l'Église, c'est important de pouvoir s'y pencher quelques instants. Dieu interpelle l'Église d'Éphèse, non pas sur sa moralité, nous le voyons, sa moralité est parfaite, son comportement est très bon. À ce sujet, cette Église ne vit pas dans l'air du temps. Elle ne se conforme pas au siècle présent comme certaines Églises, malheureusement, actuellement. Il faut être à la page, il faut être moderne, il faut réviser un peu l'Évangile. Quand même 2000 ans qu'il est écrit, il faut quand même un peu le dépoussiérer, dit-on. Hein. Il faut suivre le courant de pensée actuel. Et certaines églises actuellement sont un peu comme ça, on veut plaire à nos contemporains pour amener des gens dans l'église. On se dit comment faut-il faire pour amener des gens dans l'église, pour un peu changer un peu notre méthode, c'est-à-dire ne plus dire certaines choses, ne pas paraître vieux jeu, voire conservateur, c'est un mot à la mode maintenant. Vous avez les conservateurs et les progressistes. On est conservateur sur certains faits de société où nous ne voulons pas vivre suivant les principes bibliques qui sont un peu durs. Et les églises qui veulent se conformer à la parole de Dieu, on nous traite de rétrogrades par certains libres penseurs. Voilà un peu la situation de l'église à ce moment-là et encore plus maintenant. Cette Église marche vraiment dans la saine doctrine de Dieu. Dieu ne lui reproche pas vraiment de ne pas se conformer à la parole de Dieu dans sa doctrine. Cette Église déteste le mensonge. Et je peux dire que l'Église de Blagny ressemble un peu à l'Église d'Éphèse. Nous voulons marcher dans les voies du Seigneur, nous voulons vivre dans la vérité, tout comme l'Église d'Éphèse. Je le reconnais que ce n'est pas facile dans un monde où règne la désinformation, les fake news. Comme on dit, nous devons poursuivre et rechercher la vérité dans tous nos rapports mutuels. Et de même au niveau de la doctrine. Et c'est ce que le Seigneur reconnaît pour son Église d'Éphèse. Et je suis certain que quand Dieu regarde l'Église de Blény, sans vouloir nous mettre sur un piédestal, il pense sûrement la même chose. Notre doctrine, je crois, jusqu'à présent, ne dévie pas par rapport aux Saintes Écritures. Dieu met en évidence le travail que les chrétiens accomplissent à Éphèse. Éphèse est une église abattant un grand travail d'évangélisation. Il y a une œuvre qui prospère. Les chrétiens ne semblent pas regarder au temps passé pour servir le Seigneur. Ils se donnent à fond dans ce travail. Ils se donnent beaucoup de peine pour le service de Dieu. C'est extraordinaire. Et nous pouvons remercier le Seigneur au niveau de la fidélité du service accompli, quelque part, par chacun d'entre nous, dans notre communauté de Blény, malgré qu'on dit que nous sommes une communauté vieillissante, on ne peut pas le nier, il n'y a personne qui a une vingtaine d'années ici, malheureusement, mais voilà, nous, tant bien que mal, nous essayons d'être une communauté vivante, suivant les principes de la parole de Dieu, nous sommes actifs pour le Seigneur, tout comme l'Église d'Éphèse, nous sommes persévérants dans les activités, dans nos rencontres sont bien suivies, il faut le reconnaître, malgré des souffrances qui sont le lot de tout enfant de Dieu. Nous reconnaissons que, comme on dit, cette église est un peu vieillissante, mais oui, nous avons tous les mérins des plus de 60 ans. C'est comme ça. Et pourtant, quand on voit ce tableau qui est idyllique, qui est magnifique, Dieu se permet de faire des reproches à cette église si parfaite, semble-t-il, du prime abord. Et Dieu lui dit quelque chose qu'il a à lui reprocher, « Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. » Voilà le reproche que Dieu fait à l'église d'Éphèse. Oublier son premier amour, un peu comme un vieux couple usé par le train-train de la vie, où le dialogue est peut-être « passe-moi le sel, qu'est-ce que tu as fait à manger »« as-tu sorti le chien ?» Voyez-vous, un peu comme ça, un vieux couple usé. Et voilà un peu comment peut-être Dieu considère cette Église. Vivant comme un vieux couple qui vient ensemble, mais sans plus trop faire attention à l'un à l'autre. Voilà ce que Dieu reproche à l'Église d'Éphèse. Et je me suis posé la question, est-ce que Dieu doit-il nous interpeller de la même manière à nous, enfants de Dieu, membres de l'Église de Blény? Doit-il nous interpeller en tant qu'Église ou en tant qu'individu? Est-ce que quelqu'un, ce matin, se sent interpellé par Dieu, par ses mots? À nous de nous arrêter et de réfléchir et d'écouter Dieu nous parler. Dieu ne reproche pas à l'Église d'effet son travail. Il reconnaît qu'elle se donne à fond, comme nous l'avons dit. Mais attention aussi, attention à cet activisme sans amour, car un travail sans amour n'a pas de saveur pour Dieu, et la qualité s'en ressent. Ne dit-on pas souvent, cet ouvrier a l'amour du travail bien fait. Travailler sans amour envers les frères et sœurs, accomplir cette tâche parce qu'il faut bien le faire, mais le cœur n'y est plus. Combien d'églises, combien de chrétiens se trouvent dans cette situation-là? Accomplissons-nous notre ministère avec amour ou par contrainte? Accomplissons-nous notre service pour Dieu, quel qu'il soit, parce que nous aimons Dieu, parce que nous sommes remplis d'amour. Accomplissons-nous notre service pour Dieu parce qu'on n'a pas le choix. Pour bien. Si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ce serait mieux. Attention là, frères et sœurs. Si nous en sommes à ce stade-là, nous perdons notre zèle. Nous perdons notre premier amour en agissant et en parlant ainsi. En perdant notre premier amour, notre service pour Dieu en pâtit. On n'a plus cet entrain. Quand on est vraiment amoureux, on irait au bout du monde pour sa bien-aimée. Hein, c'est un peu comme ça. Quand on était fiancé. Après, pourquoi est-ce que vous riez? Vous n'avez plus envie d'aller au bout du monde? Après, ça s'estompe. Et je crois que le service pour Dieu, c'est un peu la même chose aussi. On est tout feu, tout flamme. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, et ici de quoi il parle, Pierre. Chapitre 5, verset 2, il nous dit à nous, serviteurs de Dieu, à nous, membres des communautés, à nous qui sommes actifs, qui participons à la vie de l'Église, il dit, comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Et je m'arrête, je ne devais pas m'arrêter, mais il y a une réflexion qui me vient. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Oh, Dieu nous a confié une tâche. Ce n'est pas suite à une élection. Oui, il y a une élection. Mais pensons bien que cette tâche-là, c'est Dieu qui nous l'a confiée. Ce n'est pas quelqu'un, un être humain quelconque. Veillez sur lui, sur le troupeau, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Et je reviens sur ces premiers mots de Pierre, comme des bergers. Comme des bergers. Avez-vous déjà vu travailler les bergers? On voit souvent dans les reportages des bergers. J'ai eu l'occasion d'en voir aussi dans les vacances dans le sud, de voir des bergers conduire leur troupeau. Et on voit qu'il y a un grand amour envers le troupeau. Je dirais même une parfaite complicité entre le berger et son troupeau. Ils prennent soin du troupeau dont ils ont la charge. Et Pierre demande aux responsables des églises de prendre soin du troupeau. De plein gré, dit-il. De plein gré, non par contrainte, sous-entendu avec amour, parce que nous aimons l'Église, nous aimons les frères et sœurs qui sont à notre charge. Non pas comme on dit à Liège, oufti, je dois encore présider ce matin. Oufti, je dois encore prêcher. Oula, je dois faire le café, je dois nettoyer la salle. Et ça pèse. Accomplir un service spirituel ou matériel avec amour et pas à dire j'en ai marre, mais avec dévouement. Les personnes dévouées sont souvent remplies d'empathie envers les autres, remplies toujours du premier amour. L'amour est indispensable dans le service pour le Seigneur et cet amour, l'Église d'Éphèse l'avait perdu. Et peut-être que parmi nous, quelqu'un, ou nous tous, à nous de faire une pause et de nous arrêter, nous avons perdu cet amour. Sommes-nous toujours remplis du premier amour? L'amour est indispensable dans le service du Seigneur. Elle était sans reproche, cette Église, au niveau activité, moralité. Aucun reproche là-dessus. Mais le travail était accompli sans amour. Le feu sacré du début, au début de leur conversion, ils étaient tout feu, tout flamme, comme beaucoup d'entre nous. On évangéliserait le monde entier, la terre entière. Et puis cet amour, tout doucement, disparaît. Et je l'ai mis en gras. Comment est notre amour ce matin? Comment est-il notre amour pour Dieu, pour le service, pour nos frères et sœurs? Cette flamme brûle-t-elle encore en nous? Est-il toujours le même, frères et sœurs? Accomplissons-nous les tâches en mourriant vivement que quelqu'un se charge de ce travail? Moi, j'en ai marre. Le premier amour est-il toujours en nous? Ou sommes-nous comme ce vieux couple, usé par la vie, usé par la vie chrétienne? Nous devons réaliser, frères et sœurs, que nous ne sommes pas de simples chrétiens, de simples membres d'Église, mais nous sommes, chacun d'entre nous, et pas seulement ceux qui sont ici, devant vous, nous sommes les serviteurs du Maître. Nous avons tous une tâche à accomplir pour le Seigneur. Il y en a qui disent « Oh, moi, je n'ai pas de ministère, je n'ai pas de don. » Ce n'est pas vrai. Dieu nous a tous qualifiés, cherchés un peu. Il y a parfois des dons naturels qui sont en nous que Dieu voudrait que nous développions. D'autres, ce sont des dons surnaturels que Dieu nous accorde, nous qualifie. Et si nous sommes les serviteurs du Maître, rappelons-nous le Maître. Dans le chapitre 13 de l'Évangile de Jean, il nous est dit que Jésus mit le comble à son amour. Wow. Jésus était déjà rempli d'amour, parce qu'il fallait une sacrée dose d'amour pour venir sur cette terre, parce qu'il savait bien ce qu'il attendait. Ce n'était pas simplement pour faire du show, du théâtre, du spectacle, des guérisons, non, il savait très bien qu'il allait venir sur cette terre pour mourir sur la croix, parce qu'il nous aimait. Et Jésus a mis le comble de son amour, il a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'était pas à lui de le faire, car il était le maître. Mais il s'est abaissé en tant que serviteur. Il a pris, lui, le maître, le rôle de ce serviteur. Il s'est abaissé au plus bas, il s'est abaissé au rôle d'un esclave. Il aime, il est débordant d'amour, son amour est sans faille, il aime malgré les déboires que Jésus a vécu, malgré les trahisons qu'il a subies, malgré les moqueries, les revers. Quand nous voyons un peu la vie de ses disciples pendant ces 3 ans de ministère, ce n'était pas toujours glorieux. Mais il les aimait, il s'est abaissé. Et son amour, bien entendu, le plus grand, c'est quand il est monté sur la croix pour mourir, pour nous tous. Pourquoi l'Église d'Éphèse perd-elle son premier amour? Oh, des fois, il y a les aléas de la vie, les épreuves, les déceptions. Combien de fois on entend dire « Oh, je suis déçu des chrétiens. Oh là 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 !» Ouais. Mais Dieu doit nous regarder, là. Nous sommes déçus. Alors, on se décourage, notre amour n'est plus le même. On dit « Oh, si c'est comme ça, la vie chrétienne, ça ne vaut pas la peine. » Le découragement nous surprend, peut-être la maladie. Et tout cela peut nous amener à perdre notre premier amour. La fatigue, comme je dis, les épreuves, le manque de prière, le manque de cette relation intime avec Dieu. Il est vrai que dans un couple, quand les liens se desserrent, l'amour, tout doucement, se refroidit. Combien de couples se séparent parce qu'ils n'ont plus rien à se dire? Et si nous n'avons plus rien à nous dire en tant que chrétiens, ou nous n'avons plus rien à dire à Dieu, eh bien, voilà, notre amour se refroidit. Le manque de connaissance de la parole de Dieu. Prenons-nous le temps de lire, de réfléchir à ce que nous lisons pour approfondir notre connaissance et notre amour envers Dieu. Tout ça, ce sont des facteurs qui, si nous n'y prenons pas garde, nous font perdre notre premier amour que nous avions, dont nous étions fiers, fiers d'être chrétiens. Et remarquons aussi le rappel que Dieu fait à l'église d'Éphèse. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi, église d'Éphèse, tu es tombé, tu es par terre hein, pour l'instant. Peut-être que Dieu nous dit à tous ou dit à quelqu'un ce matin, rappelle-toi là, et tu es par terre pour l'instant. Il faut que je te relève, il faut que tu reviennes à moi. Malgré tous ces points positifs que peut avoir cette église, Dieu lui dit attention, tu as chuté. Tu as chuté parce que tu t'es refroidi. C'est pour ça qu'on chute. Tu t'es refroidi dans ton amour. Tu t'es refroidi dans ton zèle. Tu t'es refroidi dans la prière. Tu t'es refroidi dans la persévérance de l'écoute de la parole de Dieu. Tu manques d'affermissement, de profondeur. Fais attention à toi. Prends garde. Tu es en train de reculer. Tu as abandonné ton premier amour pour ton Dieu. Tu t'es laissé submerger par ce qui est secondaire. Tu marches selon l'air du temps. Ça veut dire tout ça, en quelques mots. Jésus, quand il est ressuscité, il est inquiet pour Pierre. Il est inquiet pour Pierre parce qu'il savait bien ce que Pierre avait vécu, il savait très bien ce que Pierre avait dit pendant le procès, mais il savait bien aussi ce que Pierre avait dit avant la mort de Jésus, tous ces commentaires, toutes ces réactions, tous ces emportements, toutes ces paroles prononcées à l'emporte-pièce. Et Jésus voit Pierre et lui pose cette question. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu comme quand tu m'as rencontré? Quand tu as tout laissé, voilà une sacrée dose d'amour pour se lever, laisser tout le matériel là, c'était le gagne-pain de la famille, laisser la barque, les filets, et suivre Jésus. À ce moment-là, Pierre aimait Jésus. Et Jésus était inquiet. Pierre, ton premier amour, où est-il? Et ça fait un choc à Pierre. Vous connaissez toute cette histoire. La Pierre doit rentrer en lui-même parce que, oui, je t'aime. Et tout le monde ici ce matin va répondre la même chose. Et Jésus nous repose une deuxième fois la question. M'aimes-tu? Ben, oui, hein, Seigneur. Et à la troisième fois, là, on se dit, oui. S'il nous pose cette question-là, c'est que mon premier amour n'est plus le même. Et Pierre-là est effondré parce qu'il a réalisé qu'il devait ranimer cet amour. Comme dira l'apôtre Paul à Timothée, ranime le don qui est en toi. C'est ce matin que Dieu nous interpelle pour nous ranimer. Pierre, m'aimes-tu? Comme au moment de ta première rencontre avec moi. Et ce matin, vous allez mettre chacun votre nom à cette question. M'aimes-tu? Que va-t-on répondre ce matin? Que va-t-on répondre quand on regarde où en est notre premier amour? Où en est notre relation avec Dieu? Je ne peux pas répondre pour vous. Je dois répondre pour moi ce matin. Répondre pour chacun, sans regarder son voisin, celui-là. Oh là 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 là. Son amour pour Dieu. Ouh. Et peut-être que le voisin dit la même chose en le regardant. Ouh, c'est... Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande ce matin. Il nous dit, ben, Pierre. Je dis Pierre comme il n'y a personne qui s'appelle Pierre ici. Donc voilà, je suis libre. Sinon, je dis Ernest. Mais m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? Comme le jour de ta rencontre. Et c'est vrai que quand on est dans un couple, parfois, mon épouse, votre épouse, on se regarde et tu m'aimes? Ben oui. C'est normal. Et par contre, on se pose la question, tu m'aimes toujours? Ben oui. On a vieilli, on n'est plus le même beau jeune homme, quoique, hein, que nous étions, mais m'aimes-tu? Et Jésus dit la même chose, hein, à nous, parce que ce matin, nous ne sommes plus la belle jeune fille, le beau jeune homme spirituel que nous étions il y a 10, 20, 30 ans. Et il nous repose cette même question. Et pourtant, on remarque que l'église d'Éphèse est toujours active, bien occupée dans le service pour le Seigneur. Oui, comme cette église, nous pouvons perdre l'ardeur de notre premier amour et continuer à être actifs au sein de l'église. Mais quelle valeur a notre service? Est-il le service que Dieu agrée encore? Sommes-nous la bonne odeur de Christ? N'est-ce plus qu'une activité quelconque que nous mettons à notre agenda? Nous sommes pensionnés la plupart, oui, à part Anne-Catherine. Il faut bien s'occuper, hein. On doit en faire quelque chose pour l'Église, hein. C'est pas comme ça qu'on doit le voir, hein, même si on est pensionné, et même si on travaille. C'est pas un hobby que venir à l'Église et servir le Seigneur. Ça ne doit pas être vu comme un hobby. Comme quelqu'un qui irait jouer aux cartes le mardi après-midi, un petit hobby, ou jouer à la pétanque. Pas du tout à comparer à cela. C'est un service, c'est un travail pour Dieu. Frères et sœurs, ce matin, évaluons notre travail, notre service pour Dieu. Est-il vraiment agréable? Quelle est la profondeur de notre amour? Je ne peux pas répondre pour vous, je dois répondre pour moi. Et je sais que j'ai des failles. Si nous voulons tous être honnêtes, nous avons tous nos failles, hein. Tous nos ratés. Dieu appelle l'Église d'Éphèse à la repentance et il fait de même pour son Église du 21e siècle qui est terriblement sollicitée encore plus que l'Église primitive par toutes sortes de passe-temps, d'activités, de distractions qui ne sont pas toutes mauvaises. Je n'irai pas dire, ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais toutes ces distractions-là prennent la place pour le service, prennent la place que Dieu n'a plus. Dieu nous rappelle que nous avons un service à accomplir, chacun d'entre nous, quel qu'il soit. Et Dieu voudrait qu'on soit toujours amoureux, fous de lui. Est-ce que nous sommes toujours fous d'amour pour Dieu? Rappelons-nous, quand nous étions fiancés, nous étions fous d'amour pour notre fiancé. Parce qu'à ce temps-là, on se fiançait encore. Hein. Maintenant, on se met directement en ménage. Mais à ce moment-là, il y avait un temps d'adaptation et on était fous amoureux. Et quand on était jeunes chrétiens, nous étions fous amoureux pour Dieu. On n'avait jamais assez de réunions, assez de lectures, assez de prières et tout ça. Et puis tout doucement, tout cela, ça s'effrite. Frères et sœurs, Dieu nous demande ce matin de changer d'attitude afin de continuer à aimer de nouveau notre Dieu. Car si l'Église ne change pas, si elle s'endurcit, Dieu devra sévir, comme il le dit à l'Église d'Éphèse, ôtez notre récompense. Nous aurons alors combattu, nous serons donné tant de mal pour rien, avoir combattu pour rien. L'apôtre Paul en parle dans une de ses épîtres. Rappelons-nous que Dieu est un Dieu jaloux et il veut que nous l'aimions plus que tout. Pour lui, pas de cœur partagé. Il nous veut tout à lui pour son service et pour sa gloire. Et malgré cela, quand Dieu regarde l'église d'Éphèse, malgré les reproches que Dieu peut lui faire, il appuie sur la fidélité, malgré tout, dans l'église d'Éphèse. Il appuie sur sa conduite. L'Église n'aime pas la doctrine des Nicolaïtes en ce qui concerne le comportement moral et tout ça. Elle a horreur de cette doctrine qui parle d'impudicité et tout ça. Mais frères et sœurs, il ne suffit pas de se comporter correctement. Les inconvertis, des fois, ont une vie morale exemplaire. Nous n'avons rien à leur reprocher. Moi, j'en connais. Ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais ils ont une de ces conduites. Ils sont des exemples pour les chrétiens. Oui, l'Église doit avoir une conduite morale exemplaire, bien entendu. Mais Dieu veut que l'Église soit animée à nouveau de son premier amour, qu'elle retombe amoureuse de son Dieu. Car Dieu veut récompenser son peuple qui est rempli d'amour. Dieu veut récompenser son Église. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Perdre notre récompense, quelque part être sauvé à travers le feu, comme il dit, sans aucune récompense, sans aucune médaille. Voilà les promesses de Dieu pour son Église, sanctifiée, purifiée, remplie d'amour profond pour Dieu, pour les frères, pour le monde. Alors aujourd'hui, je nous propose à chacun d'entre nous, moi y compris, moi le premier, à faire un retour sur lui-même, à reconsidérer si le premier amour que nous avions pour Dieu est toujours en nous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il est toujours temps de s'humilier devant Dieu, de faire un retour en arrière, de demander pardon, et de revenir auprès du Père, car Dieu est amoureux fou de nous. Nous sommes la fiancée de Jésus et il aime son Église, il est amoureux de son Église et il est prêt à pardonner si nous revenons à lui. Il est prêt à nous recevoir les bras ouverts car l'amour de Dieu ne tarit pas. Alors ce matin, frères et sœurs, j'ai eu à cœur de vous parler de ça parce que ça me touche personnellement, à moi, le premier. Je dois reconsidérer quel est mon amour pour Dieu. Comment je l'aime encore. Et ce matin, nous avons tous à reconsidérer comment nous aimons Dieu. Je n'ai pas à porter un jugement sur qui que ce soit. Parce que je suis le pécheur, moi le premier, donc j'ai besoin du pardon de Dieu, j'ai besoin de sa grâce pour avancer. Que ce matin, nous puissions nous regarder chacun, faire une introspection. Et que va-t-on répondre quand Jésus nous dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Gardons quelques moments de silence. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles, tu interpelles ton Église, tu nous interpelles chacun en particulier. En nous posant cette question, m'aimes-tu ? En nous demandant, où est ton premier amour ? Seigneur, ce matin, pardon pour chaque fois que je ne t'ai pas aimé comme je devais t'aimer. Pardonne ton Église quand elle ne t'a pas aimé comme tu dois être aimé. Redonne-nous ce zèle, redonne-nous ce feu, redonne-nous cet amour. Seigneur, nous savons que nous vivons des temps difficiles, Seigneur, mais nous voulons te demander ta grâce pour combattre ce combat de la foi. Nous remettons cette communauté entre tes mains, nous remettons chaque chaque membre de cette communauté, chaque visiteur, qu'il soit vraiment rempli de toi, Seigneur. Merci, parce que toi, tu nous aimes toujours. Amen.